Nous voyons ici dans Apocalypse chapitre 6 et chapitre 7. Premièrement, on voit la tribulation. On a ici le septième saut. On a chapitre 6, commence le début de la tribulation. On a tout ce qui se passe. Et à la fin du chapitre 6, on a le retour de Christ. Et donc, à la fin du chapitre 6, les rois de la terre demandaient que les montagnes tombent sur eux parce que l'agneau arrivait. Okay? Et aussi, on voit dans chapitre 7, qui est un genre de parenthèse, on voit à la fin que toutes ces grandes masses de personnes sont qui? Ce sont des personnes qui avaient été des martyrs pendant la grande tribulation. Et ils sont vêtus en blanche. Et donc, du fait que c'est parlant de la fin de la tribulation, ceux qui sont sortis de la tribulation, c'est à la fin. Et à la fin, on voit que Jésus arrive aussi à la fin du chapitre 7. Ça, c'est pour insister sur le méthode d'interprétation qu'on utilise aujourd'hui. C'est que le point capital, c'est que Jésus va revenir. Jésus va régner sur la planète. C'est lui qui est victorieux. C'est lui qui a vaincu. Et on voit à chaque fois qu'on arrive au même point. C'est le point de référence. C'est le retour du Seigneur Jésus. Donc, on a ces sceaux qui sont ouverts. Donc, il a dit une marque, je pense, ou une empreinte ou quelque chose, je ne sais plus. Mais un sceau, voilà. Les sceaux vont être ouverts un après l'autre. Le premier, c'est l'Antichrist. Le second, c'est fin de la paix. C'est la guerre qui se répand sur la planète. Le troisième, c'est la famine. Le quatrième, c'est les conséquences de la guerre sur 25% de la planète. Le cinquième, c'est les martyrs. Et le sixième saut, c'est l'avènement du Christ. C'est le retour, comme je viens de dire. Il arrive. Donc, plus tard, dans l'après-midi, on va voir le chapitre 8 jusqu'au chapitre 18. Ce sont des détails concernant la tribulation, quand il va ouvrir le septième sceau, il y aura les sept trompettes, les sept tonnerres, les sept coups, les trois malheurs. Ce sont des détails qui vont être expliqués par la suite. Mais comme on va voir cet après-midi, à la fin des sept trompettes, on va arriver au retour de Jésus-Christ. À la fin des sept tonnerres, on arrive au retour de Jésus-Christ. À la fin des sept coups, on arrive au retour de Jésus-Christ. C'est le point de référence. Au chapitre 7, on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à lire les 12 000 de chaque tribu. Alors, il y en a qui veulent que les 144 000 représentent l'Église. Mais je pense qu'il voulait dire l'Église, il aurait dit l'Église. Au lieu d'insister, non pas simplement que ce sont 144 000 de toutes les tribus d'Israël, mais 12 000 d'un tel, et 12 000 d'un tel, et 12 000 d'un tel. Je pense que c'est vraiment ce qu'il insiste. C'est la même chose pour le millénium plus tard. Il dit quatre fois, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. Ben, s'il ne voulait pas dire 1000 ans, il aurait pu dire autre chose. Mais il insiste sur le point. Donc nous devrons accepter que Dieu sait ce qu'il veut dire. Et nous, on accepte, on croit, on interprète littéralement la chose. Dans le chapitre 7, il dit que les anges ne doivent rien faire de mal à la terre, à la mer, aux arbres, jusqu'à ce que soit marqué d'un sceau le front des serviteurs de Dieu, donc les 144 000. Et donc, on voit que chronologiquement, le chapitre 7 arrive au début du chapitre 6. Mais comme c'est la façon de faire l'explication, il a donné chapitre 6 avec tous les détails global de cette année de la tribulation. Et puis, il a fait une petite parenthèse. Alors, avant de commencer la tribulation, ou juste au début, eh bien, il faut marquer les 144 000. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les 144 000? Ils vont évangéliser. Ce seront, donc, si on fait un calcul, j'ai fait ça il y a longtemps, donc je peux me tromper, mais ça fait à peu près 220, ou plus ou moins, évangélistes pour chaque pays de la planète. Plus ou moins. Donc, peut-être les plus grands pays auront plus d'évangélistes et les plus petits auront moins. Mais ce sont des hommes qui sont protégés par Dieu pour qu'ils ne sont pas, pour qu'ils ne soient pas affectés par les divers fléaux qui vont arriver sur la planète et pour qu'ils puissent évangéliser. Et on voit dans le chapitre 6 où il a dit qu'il y a, non, ce n'était pas le chapitre 6, c'est le chapitre 7, qu'il y a une grande foule que personne ne pouvait compter de toutes les nations, toutes tribus, toutes peuples, toutes langues, qui se tenaient devant le trône, revêtus de blanc, etc. Et ce sont ceux qui étaient les martyrs. Donc ça veut dire que les 144 000 vont évangéliser. Il y aura beaucoup de conversions pendant la tribulation. Une foule qu'on ne peut pas compter. Pourtant, ils vont être des martyrs. Moi, je préfère croire aujourd'hui en Jésus-Christ que de croire dans la tribulation, parce que c'est presque sûr que vous croyez en Jésus-Christ dans la tribulation, vous êtes tués. C'est ça que ça signifie. Grand nombre de martyrs. Et donc, ils ont une position spéciale dans le programme de Dieu. C'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ dans le pire des circonstances et ils ont quand même cru, bien qu'ils savaient que ça voulait dire signature de la mort. Hein? Voilà. Donc, globalement, c'est chapitre 6, c'est la tribulation globale. Chapitre 7, on marque les évangélistes pour qu'ils évangélisent. Et le résultat, c'est beaucoup de conversions et beaucoup de martyrs. OK? Avez-vous des questions ou des observations sur ces deux chapitres?
Les 12 tribus, on sait que c'est le fils de Joseph.
Fils de Joseph, oui.
C'est marrant ce chiffre, 12
000. Jacob.
De Jacob, oui, pardon. Et 12 000 sauvés par chaque tribu, c'est ce chiffre. 12 tribus et 12 000, c'est vraiment précis, quoi. Pourquoi ce chiffre?
Pourquoi, je ne sais pas. Mais donc, c'est le Seigneur qui donne ce chiffre. Donc, ce n'est pas pour dire que Dieu limite le nombre de Juifs qui vont être sauvés. Mais il a défini le nombre d'évangélistes à protéger. Donc, il y a peut-être beaucoup plus de convertis de judaïsme à Jésus-Christ pendant cette période-là. Mais ce sont... Donc, il a défini, ce sont des hommes qui sont qui n'étaient jamais mariés, qui sont des célibataires, etc. C'est très défini qui sont ces gens-là. OK? C'est pas un texte contre le mariage non plus. Hein? C'est simplement pour dire que ce sont des personnes qui sont consacrées à l'évangélisation. Donc, on doit imaginer qu'ils ont au moins... 10, 15 ans, 20 ans, quelque chose, quand la tribulation commence. On ne peut pas être les bébés, parce que la tribulation, c'est que cette année. Donc, si c'est des bébés ou des tout-petites, ils ne vont pas être suffisamment grands pour se déplacer et être utiles. Donc, c'est les jeunes hommes, ou peut-être quelques personnes âgées, je ne sais pas, mais c'est les hommes faits. Et donc, ils vont avoir cette année pour évangéliser. Oui?
Moi, j'ai une question, c'est pourquoi... Il n'y a pas la tribu de Dan.
Ah, j'ai oublié la réponse. Pourquoi il n'y a pas la tribu de Dan? Il me semble que c'était maudite ou quelque chose. Et donc, c'est rempli ici dans la liste par le mot de Joseph, je pense.
Joseph, qui aurait pu être Ephraim aussi. Mais...
Oui, Joseph était divisé en deux.
Parce qu'il parle de Manassé, donc soit Joseph, soit Ephraim aussi.
Voilà, donc c'est une chose, je ne me souviens plus exactement le calcul là. Mais c'est bon de poser des questions parce que autre personne peut poser des questions. Une autre question? Donc, on n'a pas beaucoup parlé. Et je ne sais pas si j'ai toujours le document, mais nous croyons, donc à partir de l'Église de Philadelphie, que les croyants en Jésus-Christ, les quelques-uns qui restent à ce moment-là, quand Jésus va démarrer la tribulation, et bien nous croyons que les croyants en Jésus-Christ, qui sont l'Église, vont monter, comme Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront transformés et vont tous les deux rejoindre Jésus dans les lieux célestes. Pendant les 7 années de la tribulation, on va voir plus tard dans l'Apocalypse, il y aura ce qui s'appelle le tribunal de Christ. C'est une évaluation de nos œuvres, comme est marqué dans 1 Corinthiens chapitre 13. Donc, certaines choses demeurent pour l'éternité. Donc, la foi, l'espérance et l'amour. Et l'amour, c'est ces choses qui seront évaluées, ce que nous avons fait en Christ pour le bien des autres, pour leur bénéfice, comme on a vu, pas pour mon propre bénéfice ou ce qui pourrait me revenir vers moi, mais parce que j'aime, parce que Dieu m'a aimé, m'a sauvé et je agis envers les autres. Donc il y a une évaluation et tout ce qui est fait pour moi-même ou pour autre motif, ça sera évalué et puis ça va disparaître. Et il n'y a que l'or, l'argent, les bijoux qui vont rester et deviendront donc les choses pour lesquelles Dieu va nous donner nos couronnes. Okay? Et c'était marqué dans une des 7 églises là pour tenir ferme pour qu'on ne perde pas les couronnes. Hein, parce que si on commence à faire des bonnes choses et après on dit, bah, tiens, en faisant cette bonne chose-là, je deviens riche, par exemple. Ah, ben, je commence à le faire parce que ça va me donner de l'argent. Ah ben, j'ai perdu ma couronne. Vous voyez? Ce n'est pas pour dire que j'ai perdu le salut, mais le bénéfice éternel que j'aurais pu avoir, je l'ai accepté sur la terre. OK? Autre question sur le chapitre 6 ou 7?
Par rapport à la chronologie qui est affichée là-bas, le septième sceau, si le sixième sceau correspond au retour du Christ, le septième sceau correspond à quoi?
À la fin du sixième sceau qu'on vient de lire, Jésus revient. Après, donc le septième sceau, c'est à partir du chapitre 8, il ouvre le septième sceau et ça donne le reste du livre. Donc au chapitre 6, on a ouvert, donc vous imaginez un rouleau.
Le septième sceau, en fait, il arrive chronologiquement avant, parce qu'il repart sur les trompettes, les tonnerres, les coupes, c'est ça?
Je dirais que le septième sceau, j'ai pas une preuve pour ce que je vais dire, d'accord? Donc c'est une supposition. Le septième sceau va développer tout ce qui se passe à partir du milieu de la tribulation, quand l'Antichrist va rompre son alliance avec Israël et il va commencer à se dire, voilà, c'est moi qui ai Dieu sur la terre. Et donc, toutes les mauvaises choses qui sont le pire de pire vont être à partir de cette septième sceau. Donc, on ne revient pas tout à fait au début de la tribulation, mais on revient au milieu et on part du milieu jusqu'à la fin. Tu vois le quatrième sceau, le milieu de la tribulation ici?
D'accord, oui.
Donc les 7 trompettes commencent ici. Et quelque part plus loin, les 7 tonnerres commencent quelque part après le cinquième sceau. Les 7 coupes commencent juste avant le retour de Jésus. Quelque part après le 16e et avant le 6e. Tu vois? C'est pas défini exact, mais le 6e sceau se termine au retour de Christ. On revient, comme tu as demandé, mais pas juste au début de la tribulation, mais on revient à peu près au quatrième sceau. Tu vois? Le milieu de la tribulation, quand l'Antichrist fait les déclarations qu'il est Dieu et qu'il commence à obliger les gens à prendre la marque sur la main ou sur le front pour adorer l'Antichrist et qui donne le droit à acheter, vendre, etc. OK? D'autres questions?